Alors Antoine et Kevin, vous êtes avec nous aujourd'hui, donc vous faites partie du SMABI. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le SMABI ?
Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Eh bien, le SMABI, donc, c'est un acronyme qui signifie tout simplement Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de Liton. Donc c'est un nom un petit peu à rallonge, mais qui est assez simple dans sa compréhension. C'est, pour résumer, en fait, on est technicien rivière.
Ok, et vos missions, c'est quoi ?
Elles sont assez, assez variées. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que le syndicat a la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc toutes nos missions vont tourner autour de toutes ces thématiques-là. Donc la bonne gestion de la rivière, s'assurer de la ressource en eau, en qualité et en quantité, et aussi tout un volet sur l'animation au niveau des inondations.
Ok, ouais, restaurer nos milieux aquatiques qui ont été un peu défoncés au cours du siècle dernier.
C'est ça.
On peut dire ça comme ça pour résumer. Il me semble que vous êtes en train de faire une intervention justement à Normanville en ce moment, non ?
Oui, elle est même terminée.
Sérieux ?
En tout cas, voilà, c'est ça. La grosse phase de travaux vient de se terminer tout début décembre. Et c'est des travaux qui ont débuté depuis le mois d'août. Donc voilà. Pas mal de mois de travaux et donc qui ont consisté en ce qu'on appelle la restauration de la continuité écologique.
D'accord. Et en gros, l'objectif, c'était quoi ? C'était de refaire des méandres, dis-moi en plus.
Oui, c'est en quelque sorte, en fait, pour les personnes qui connaissent Normanville, mais c'est le cas aussi dans pas mal de secteurs, c'est souvent, en fait, on a dévié les cours d'eau pour des besoins à l'époque industrielle ou aussi pour des moulins, pour moudre le blé, par exemple. Et donc, pour ça, en fait, on déviait les cours d'eau, on les perchait, c'est-à-dire qu'on les amenait plus haut, en hauteur, pour justement bénéficier de la chute de l'eau, qui faisait tourner souvent une roue et qui permettait soit d'entraîner toute une chaîne pour moudre le blé, et après ensuite ça a été pour toute la phase industrielle pour faire l'électricité, alimenter des moteurs. Et du coup aujourd'hui ces vocations de moulins n'existent plus parce que bon voilà, il y a eu l'évolution industrielle avec l'électricité partout, et du coup en fait on a encore ces reliquats et ces cours d'eau qui ont été déviés, qui ont été chenalisés, mis tout droit, alors qu'avant on avait historiquement des cours d'eau qui étaient assez sinueux par endroits. Et donc le but de ces travaux, c'est justement de rétablir cet état initial qu'on retrouvait avant cette modification par l'homme.
Donc c'est un intérêt, tu l'as dit, pour les inondations, mais j'imagine ce qui nous intéresse, nous, ici à Radio Biodiv, c'est un intérêt aussi pour la biodiversité.
C'est ça. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est une action qui va avoir plusieurs bénéfices, et à la fois ça va jouer un grand rôle pour les inondations, et aussi surtout sur la reconnexion des zones humides, parce qu'en fait, on va remettre la majorité du débit du cours d'eau dans le fond de vallée, et donc... En faisant cela, on restaure le milieu et on restaure aussi les zones humides qui sont attenantes, donc qui sont vraiment juste à côté. Et donc du coup, ça va bénéficier à toutes les espèces présentes, donc que ce soit au niveau de la flore, des habitats et bien évidemment des espèces faunistiques.
Et du coup, ça se passe comment ? C'est quoi le déclencheur ? C'est justement une association qui vous alerte ? C'est vous qui constatez ? C'est comment on déclenche cette grosse démarche, quoi ?
Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est quelque chose que l'on mène. En fait, on fait un diagnostic territorial. Donc on parcourt tout l'ensemble du cours d'eau, tout notre territoire, et on note justement toutes ces informations-là avec l'historique, vraiment des choses qui sont très liées au cours d'eau. Et en fait, après, on se fait une sorte de notation avec plusieurs thématiques, plusieurs paramètres, et du coup, ce qui nous permet de dire, savoir si tel secteur est en bon état écologique ou non. Et en fait, en fonction de ça, on met des priorités et on peut faire des travaux.
Et c'est quoi les espèces un petit peu remarquables là, qu'on pourrait retrouver à Normanville, du coup ?
À Normanville, c'est bien parce qu'on parlait du campagnol amphibie, et justement c'est une espèce qui est présente sur ce cours d'eau-là, donc qui était déjà présente avant les travaux, et du coup on l'a bien pris en compte comme c'est une espèce protégée, qui était déjà bien installée. Donc voilà, c'est des travaux qui vont lui bénéficier dans les années futures. Donc voilà, on l'a bien pris en compte donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a aussi une espèce de libellule qui est protégé au niveau national, qui s'appelle l'Agrillon de Mercure, qui est aussi bien présent dans la vallée. Et donc l'objet de ces travaux-là, ça va être aussi de redonner plus d'espace pour cette espèce qui était présente que sur une toute petite partie de Liton. Et du coup, voilà, ça, les milieux sont d'autant plus accueillants.
Ah ouais, c'est des travaux super impressionnants avec des grosses pelleteuses et tout ça. Quand on ne sait pas ce que vous faites, ça peut faire peur. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent dans la rivière, c'est n'importe quoi. Oui, mais finalement, c'est des gros travaux très interventionnistes, mais qui se font une fois. Et puis après, ce sera du coup un milieu hyper favorable pour la biodiversité et qui va, entre guillemets, absorber l'excès d'eau en hiver et le restituer un petit peu en été, quoi.
C'est tout à fait ça. Ce qu'on donne souvent comme image, c'est que une zone humide, c'est une éponge. Donc elle va prendre toute l'eau en excès pendant un temps, surtout la période hivernale, pendant les inondations. Et après, ça va la restituer tout doucement, tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on appelle le soutien d'étiage. Voilà, c'est quand le cours d'eau est à son débit minimal. Voilà, ça va refournir l'eau. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir des prairies qui soient vertes, même toute l'année, et qui évitent d'être toutes jaunes, comme des fois on peut le voir dans certains secteurs.
Ouais, du coup, c'est des zones qui vont être inondables, oui. Mais qui ont quand même besoin d'un entretien. Mais là, du coup, on arrête les bulldozers et il me semble que vous mettez du pâturage extensif en place après.
C'est ça. En fait, c'est une grosse phase de travaux qui est très impressionnante. Mais en fait, on redéfait ce qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années, donc c'est pas négligeable, mais après voilà, c'est très ponctuel, et ensuite on est sur un état qui est quasiment naturel, qu'on appelle ça, et effectivement en fait on redonne cette vocation de prairie. Donc il y a un agriculteur qui mettra ses vaches en pâturage extensif, qui fera du foin sur certains secteurs, donc voilà, ça va bénéficier aussi à l'activité, à l'économie locale et à un agriculteur.
Et aussi à la biodiversité, parce
tout à fait.
Que les agriculteurs sont des acteurs de la biodiversité.
Je me permets, ouais. Il y a dû avoir d'agréables surprises. Parfois, on part avec un objectif, une idée. Déjà, on a compris que vous parcouriez tous les terrains. Ça doit être des découvertes incroyables. Ça doit parfois être de belles surprises aussi. On était dans un objectif, une idée, puis en fait, elle s'est même développée. On ne s'y attendait pas. Ça a amené une nouvelle espèce où on a vu ressortir de terre, ou plutôt donner envie à certains mammifères ou autres de se rapprocher.
Oui, c'est le cas, parce que on a toujours des objectifs. On dit on aimerait bien que telle espèce soit se maintienne, ou elle se redéveloppe, ou alors, et justement des fois il y a des espèces qu'on ne voyait plus du tout parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une fleur pousse ou qu'un animal vienne s'y poser. Et puis des fois c'est justement l'objet, c'est de faire un suivi écologique. Donc on regarde sur, on va dire en général 5 ou 10 ans, et on refait un suivi scientifique justement sur ces sites-là, et ça nous permet de voir toute l'évolution et justement de se dire, est-ce qu'on a un gain écologique, oui ou non? Souvent c'est très positif et on a des espèces qui se réinstallent, et ça c'est vraiment très très positif.
La nature est résiliente et c'est
oui, c'est très impressionnant.
Il me semble que j'ai vu passer un truc avec un hélicoptère. Vous n'avez pas fait un truc avec un hélico il n'y a pas longtemps là?
Oui, c'est ça. Alors justement, c'était ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'évocation du syndicat, c'est qu'on a une grosse partie sur les travaux, sur l'animation territoriale, mais aussi on mène des études plus larges pour mieux appréhender la ressource en eau, et notamment avec un contexte de changement climatique. On essaie de comprendre plus finement comment se passe la gestion de l'eau dans nos sous-sols, pour anticiper au mieux justement cette ressource dans les années futures.
Super. Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Antoine, sur les missions du SMABI? Si, il y a une particularité, c'est que vous êtes quand même propriétaire de pas mal de terrains. Je crois que même vous intervenez sur les terrains uniquement sur lesquels vous êtes propriétaire, non?
Alors, on n'intervient pas que sur les terrains dont on est propriétaire. On a une déclaration d'intérêt général, justement, pour engager des frais avec de l'argent public chez des privés. Mais c'est vrai qu'on a une grosse politique d'acquisition foncière, donc on va acheter des terrains qui nous semblent importants à préserver, et souvent derrière on a une idée justement de restauration de prairies humides, avec peut-être un reméandrage du cours d'eau. Voilà, on a souvent des idées derrière ces acquisitions. Donc là aujourd'hui on a à peu près à 80 hectares en fonds propres.
Ouais, c'est cool.
Donc ça commence à faire et voilà, on met plein d'actions en place. Et en plus de ça, on est aussi gestionnaire des espaces naturels sensibles, qui est une démarcation du département.
Ouais, on connaît un petit peu.
Voilà, vous connaissez. Donc voilà, on est gestionnaire de tous les sites humides sur Liton.
Ok. Et ouais, du coup, c'est intéressant parce que tu parles beaucoup de cours d'eau, mais il me semble aussi que quand vous recréez des prairies, vous faites aussi des mares qui sont oui. aussi des milieux super intéressants. Et pourquoi c'est intéressant du coup de créer des mares alors que vous bossez finalement sur Liton, quoi?
Oui. Alors les mares, c'est très intéressant puisque quand on travaille, en fait, on essaie de faire ce qu'on appelle une mosaïque d'habitat. Donc on essaie d'avoir sur une zone donnée plusieurs habitats différents. Donc c'est-à-dire on peut avoir une prairie, on peut avoir une zone un peu plus boisée, une zone avec une mare qui est un habitat qui va être complètement différent, qui va abriter une flore différente et donc aussi une faune différente. Donc plus on multiplie ces habitats dans un endroit donné, plus on a une biodiversité qui sera importante et du coup des interactions entre ces habitats-là.
Donc en plus de lutter contre les inondations, vous nous créez des hotspots de biodiversité dans le département.
Hotspots de biodiversité, et puis c'est complémentaire avec les travaux qu'on fait en cours d'eau aussi, parce que on a tout un volet sur les inondations. Souvent on parle des inondations avec les cours d'eau, mais on a aussi tout ce qui est l'aspect ruissellement. Donc des fois on peut avoir des inondations aussi très localisées sur des zones de plateau, là on s'attend
pas,
là
où
on
a pas de orages intenses.
Exactement. Ouais. Donc les mares vont participer aussi à réguler, à tamponner ce volume d'eau là qui va arriver à un moment donné.
Super, et écoute, merci beaucoup.
Ben merci à toi.
Ouais, on a bien compris que si on les voit avec leur grosse pelleteuse, mais qu'on va leur marquer le logo Smabi sur leur gilet, en fait, c'est pas des insultes ou jeter quoi que ce soit, c'est leur offrir un café qu'il faut faire.
C'est ça. Voilà, venez discuter et on est là pour en parler.
Clairement. Ben merci.
Merci.
Musique, c'est ça?
Musique, maestro.
Idem cuci gusta tama.
Rediffusion d'une émission Perspective.
Sečina, opa, cupa, šuka, lače, zasije, to jače.
C'était Mrak de Boban Markovic Orchestar.
Ça se passe près de chez vous.
Alors ce mois-ci, on vous prépare au grand comptage des oiseaux du jardin. Et pour ça, on vous propose deux formations. Une formation proposée par la LPO le 8 janvier à 18h30 à la médiathèque d'Evreux. Et une proposée par ASSO-NR le 16 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Fontaine-sous-Jouy. Suivi d'une sortie pour passer de la théorie à la pratique. Le 17 janvier à 9h, rendez-vous au Jardin des Plantes d'Evreux avec Philippe qui vous expliquera tout pour bien reconnaître les oiseaux de votre jardin. Mais aussi, le groupe ornithologique normand a besoin d'un coup de pouce pour un chantier sur la roselière de la réserve ornithologique de Lériposes le 23 janvier à partir de 9h jusqu'à 17h. Vous venez quand vous voulez, le temps que vous voulez. C'est pour maintenir la roselière. Donc si vous avez un coupe-branche et des bottes, faut pas hésiter. Et il faut vous inscrire à l'adresse mail grande.noé@gonm.org. Dans le cadre de Découvrez la nature dans l'heure, l'association Pissenlit et compagnie vous propose une sortie pour découvrir les facettes culinaires et médicinales des arbres le 17 janvier à 14h30 à Montfort-sur-Risle. Inscription sur lanaturedansl'heure.fr. Retrouvez toutes les sorties et infos sur le site de l'émission. Vous souhaitez faire la promotion de vos sorties nature? Eh bien, contactez-nous, on vous demandera de faire un petit enregistrement et on y diffusera à la prochaine émission.
Ah, aujourd'hui c'est un film que nous vous conseillons, et même deux, vous allez voir, et même un livre en plus. Tout d'abord, le merveilleux film de Vincent Munier, qui était passé au Festival Génération Durable en avant-première, est sorti mercredi 17 décembre. Il s'agit de Le Chant des Forêts. Il était à l'affiche de la plupart des cinémas de la région la semaine dernière, de mercredi 17 à mardi 23. C'est presque aussi bien qu'une sortie dans la nature, à voir en famille. Si vous le pouvez, précipitez-vous. Si malheureusement vous l'avez raté et qu'il n'est plus à l'affiche près de chez vous, nous avons un second film à vous proposer. Ce second film, vous pourrez le voir sur la plateforme d'Arte ou en replay. Il s'appelle « Chauve-souris, les sentinelles de la forêt ». C'est un film de Claire Judrin de 52 minutes dans la série Monde Sauvage, sur Arte donc. Ce film est réalisé d'après le livre Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes. Voilà le livre que je vous conseille. Et il est de Laurent Tillon aux éditions Actes Sud. Et justement, le film parle des chauves-souris, donc, mais il a comme héros principal, comme personnage, Laurent Tillon, qui est l'auteur du livre. Laurent Tillon est un biologiste qui travaille à l'ONF, qui est passionné par les chauves-souris. Il défend l'idée qu'il faut les protéger, alors qu'elles sont mal aimées. Elles sont essentielles pour la préservation des forêts et l'ensemble de l'environnement.
Eh bien écoute, c'est le moment de donner la réponse à notre petit jeu. Est-ce que tu peux nous remettre le son, s'il te plaît? Alors, Antoine, je vais essayer de donner la réponse.
Eh bien, c'est le sonneur à ventre jaune.
Et le sonneur à ventre jaune, donc c'est quand même une espèce remarquable dans notre région, dans notre région même.
C'est même plus que remarquable parce que il y a une seule population, une dernière résistante qui s'avère être dans l'heure, à côté d'Aquigny.
Et ça fait bien plaisir. Généralement, quand tu discutes avec des naturalistes de la région, l'heure c'est tout pourri, alors qu'on a quand même pas mal d'espèces assez remarquables. Et du coup, tu peux nous en dire plus? C'est une espèce que vous connaissez bien quand même, parce que vous bossez dessus.
Eh oui. Alors déjà pour rappeler, parce que ça parle pas à tout le monde, sonneur à ventre jaune, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un amphibien, donc c'est un petit crapaud, voilà, qui ressemble aussi à s'y méprendre aux autres, sauf qu'il est un peu plus petit, et quand on regarde en dessous, en fait il a le ventre jaune et noir, avec une particularité, avec des taches noires, et il a aussi des yeux avec une pupille en forme de cœur.
Oh, quel romantique. Ok, bah super. Et bah écoutez, maintenant, bah je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et l'année prochaine, on partira sur une petite thématique plutôt chauve-souris. On vous parlera un petit peu du comptage des chauves-souris en hiver. On essaiera de vous faire découvrir un petit peu ce monde fascinant et ce mammifère assez incroyable. Et bah c'est le moment de remercier Antoine et Kevin du SMABI d'être venus avec nous et de nous parler un petit peu de vos missions. C'était un vrai plaisir.
Mais merci à vous de nous avoir reçus.
Et je remercie aussi Philippe qui n'est pas là, mais à qui on pense fortement. On fait un gros bisou. Aliénor et Clotaire qui nous ont proposé la composition musicale et qui nous ont fait nos petits génériques de musique. Et la radio Principe Actif qui nous accueille pour cette émission. Et comme d'habitude, on laisse le mot de la fin à la nature.
Ce mois-ci, on vous propose l'arrivée de Migration des Grues, un enregistrement de Jean-Luc Hérel. Bonne fête à tous.
Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la toute dernière émission de l'année 2025, puisqu'on est le 30 décembre, si je ne me trompe pas de date. Donc demain sera la dernière journée de l'année, mais bon, c'est un peu trop tôt dans l'émission pour vous souhaiter de passer une joyeuse Saint-Sylvestre, on le fera à la fin. Donc voilà, à nouveau une heure pour vous parler des droits humains et de nos actions par rapport aux droits humains. Alors ce soir, comme on est quand même en période de fête, D'ailleurs, à ce propos, on espère que vous avez toutes et tous passé un bon Noël. Comme on est en période de fête, on va principalement vous parler de bonnes nouvelles, de chroniques culturelles, de choses plus positives que des informations parfois un petit peu dures que nous sommes amenés à vous présenter pendant nos émissions. Voilà. Et puis, pour animer l'émission ce soir, avec moi, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et Claire-Lise voulait revenir, pour faire un chapeau sur l'émission, comme on dit en termes de radio, elle voulait revenir sur notre dernière mobilisation très récente ici à Évreux.
Alors oui, on en a eu plusieurs, hein, parce qu'on est allé aussi au marché artisanal pour faire signer nos pétitions le 20 décembre.
C'est ça.
À la brasserie Sport, et c'était vraiment très très chouette. Et on remercie les gens de la brasserie qui nous accueillent toujours avec beaucoup de sympathie, et on est toujours très très bien accueillis. Et donc, le 18 décembre, nous avions fait un appel pour la Journée internationale des migrants avec les associations de défense des droits humains. Il y avait un rassemblement à 17h30, place Armand Mandel. Et il y avait la fanfare qui est venue. Et effectivement, ça a été un moment assez festif, puisque ça mettait un peu d'animation, un peu plus que quand il y a seulement nos prises de parole et nos discours. Donc il y avait les associations du collectif Solidarité Migrants de l'Eure qui étaient présentes, donc Un Toit Sous la Main, le CFED Asti, la Ligue des Droits de l'Homme, le Réseau d'Éducation Sans Frontières, les représentants du Secours Catholique, d'Amnesty International, bon, sachant qu'il y a aussi des représentants de l'ANDA Ponto de Mer qui ont fait un rassemblement à Ponto de Mer, et de l'ADEME de Vernon, bon, qui n'étaient pas présents à Évreux, mais qui font partie du collectif Solidarité Migrants, et puis les associations qui nous soutiennent et qui soutiennent aussi beaucoup les migrants, comme il y avait Artisans du Monde, il y avait les Restos du Cœur, et puis il y avait des représentants aussi des syndicats ouvriers.
Oui, donc
la CGT, FSU,
et voilà. Puis je sais plus.
Voilà, on a vu aussi qu'il y avait des candidats aux élections municipales 2026 qui étaient présents. Voilà. Donc il y avait trois candidats de gauche qui étaient présents lors de la manifestation, de trois listes différentes. On n'en a pas vu d'autres. Voilà. Et puis, c'était un moment vraiment très agréable. On a fait une petite marche pour retourner vers la mairie. Et on était moyennement nombreux. Hein. C'est vrai que vous, les auditeurs de Principe Actif, on aimerait bien vous voir, hein, nous rejoindre et se dire « Oh, ils étaient 3000 à nous écouter, ils sont venus !» Voilà. Donc, on refera ça cet été. Hein. On avait dit qu'on ferait quelque chose d'un peu festif au mois de juillet.
Oui.
Et j'espère bien qu'on verra le bout de votre nez.
Oui.
Voilà.
Bon, maintenant, il faut aussi dire que c'était en pleine période de fête, enfin que les fêtes approchaient, que les gens étaient déjà préoccupés par leurs courses, etc. Voilà, donc voilà. Peut-être un peu moins disponibles.
Mais je rappelle qu'il commence à faire froid la nuit et qu'il y a encore des gens qui sont à la rue.
C'est clair.
Alors, il y a des gens issus de la société française, mais il y a aussi des migrants. Tout le monde n'est pas à l'abri au chaud, parce qu'il n'y a pas assez de place. Malheureusement, le 115 est souvent saturé, même quand ils font des efforts, hein, pour essayer de trouver des places pour les personnes. Mais c'est difficile, et il y a encore des gens à la rue, parce qu'il y en a qui arrivent toutes les semaines sur Évreux. Voilà.
Ok, donc on a milité jusqu'à la dernière minute avant les fêtes de fin d'année, et on militera dès le début janvier. On en reparlera tout à l'heure dans notre petite info locale. Restez à l'écoute. Donc on a dit qu'on allait parler de bonnes nouvelles, donc moi j'en ai récupéré, il y en a heureusement pas mal pour l'année 2025. Et oui, il n'y a pas que des catastrophes dans le monde, il y a aussi des bonnes nouvelles en termes de défense des droits humains. Et la première dont je voulais vous parler, ça concerne l'Afghanistan. En 2023, Amnesty International a publié un rapport sur la guerre des talibans contre les femmes. À la suite de ces conclusions, donc du rapport, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, a déposé une demande de mandat d'arrêt contre le guide suprême des talibans et le président de la Cour suprême pour crimes, président de la Cour suprême de Kaboul, pour crimes contre l'humanité. La demande accuse le guide suprême des talibans et le président de leur cour suprême de persécution sexiste contre les femmes, les filles et les personnes LGBTI depuis leur retour au pouvoir en août 2021. Bien qu'elle soit soumise à l'approbation des juges de la CPI, il s'agit du premier mandat d'arrêt public demandé par le bureau du procureur en Afghanistan depuis que le pays est devenu membre de la CPI en 2003. Donc voilà, maintenant il faut souhaiter que ce mandat d'arrêt soit suivi des faits et que effectivement le guide suprême et le président de la Cour suprême d'Afghanistan soient arrêtés et jugés, ce qu'ils méritent amplement. Une deuxième bonne nouvelle, puisqu'on parlait de droits des femmes, ça se passe cette fois au Cameroun. Dorjelès Nguessan a été libérée le 16 janvier, donc 2025.